15h30, dans le bureau de Par Jupiter, Constance est venue rendre visite à Charline et Alex au lendemain de Noël.
Coucou les deux.
Chaque fois, ça me surprend, ça.
Oh, moi aussi. Salut Constance. Dis, on dirait que toi, t'as passé un bon Noël.
Ah
hein.
Oui.
Très bon. Vous voulez que je vous le raconte?
Bon, on n'a pas le choix, j'imagine. Ouais, bah
oui. J'ai passé Noël avec mes cousins.
Oh,
super. Formidable de retrouver la famille.
Oui.
Il m'a enfermé dans le placard de mémé toute la soirée.
Ah, quelle drôle d'idée.
Mais ouais, c'était pour jouer.
Ah bon.
Même que j'étais toute nue.
Sinon, tes parents vont bien, Constance?
Oui, il y avait même la nièce à mon père. Ah. Pour rire, on l'a mise dehors dans le froid vers 20h.
Mais même en Belgique, on fait pas ça.
Et on est allé la rechercher pour Noël. Elle était toute bleue.
Chouette, super sympa.
Sinon toi Alex, tu fais quoi pour le nouvel an?
Je sais pas encore, mais finalement je me dis que mon Noël pourri avec trois bougies et tout le monde qui faisait la gueule, bah c'était pas si mal.
Ouais, moi je les trouve vachement bons les chocolats de ma mamie.
Je suis contente.
Ouais. Et vous voulez savoir ce que j'ai reçu comme cadeau?
Non, ça va aller.
Je vais vous le dire quand même. Un album de Kenji Girac.
On aime la torture chez vous.
Les salauds quoi. Vivement Pâques.
Bonjour la France Inter, vous écoutez l'émission dont la liqueur de la blague accompagne la crème de l'actu. Tandis que nous réécoutons le gratin des invités. Et aujourd'hui, l'actrice Mylène de Bongeau, qui avait deux ou trois choses bien senties à nous dire à propos de la réouverture de la chasse. Nous avons ensuite discuté avec elle de l'élargissement de la PMA. Quant au sketch, Mylène de Bongeau a donné la réplique à Louis de Funès dans Fantomas. On avait donc très envie de jouer la comédie avec elle et nous lui avons proposé le rôle d'une Instagrammeuse chargée d'améliorer l'image de l'Arabie Saoudite. On accueillera ensuite l'écrivain Serge Bramly, qui est le spécialiste de Léonard de Vinci, pour parler de l'Italie, qui a finalement consenti à prêter l'homme de Vitruve à la France pour la grande exposition sur Léonard au Louvre. Tandis que le théâtre du Châtelet, lui, se lance dans la parfumerie pour trouver des sous. Et oui, on en est là. Juliette Arnaud, dites-nous, quelle équipe vient nous ambiancer aujourd'hui?
Eh bien, on va commencer avec Pablo Mira, qu'on a cadré sur un thème neutre, facile. La dictature de la bien-pensance. Ensuite, Guillaume Meurice, pareil, sur un thème neutre, facile, le racisme anti-blanc. Ensuite, bon, bah, très clairement, ma préférée de toutes les chroniques.
Ah oui, ok, d'accord. Non, je sais, parce que c'est vous. Là, je me rappelle très bien, vous aviez fait une chronique sur le livre d'Ivan Jablonka, Laetitia ou la fin des hommes.
Voilà,
coquinette.
Elle était vraiment très, très bien, cette.
Et ensuite.
Et pour finir, Frédéric Fromet avec une chanson dont le titre, pour vous et moi, Charline, n'a vraiment aucun sens. On n'a pas de moule.
Très bien. Ça va être facile, ma transition pour lancer. La première invitée. Allez, bienvenue à Mylène de Bongeau.
France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Mylène, on est ravis que vous soyez avec nous.
Merci beaucoup.
Alors, on vous connaît bien sûr actrice, soit Belle et tais-toi, Fantomas
voilà,
pour ceux qui nous...
Mal, celle-là. Je préférerais que vous commenciez par les sorcières de Salem, tant qu'à
on
faire.
On peut, bah, très bien, évidemment.
Bon, c'était pas le meilleur, c'est pas dingue.
Non, c'est pas le meilleur, mais c'est le moins con quand même.
Oh, Bonjour Tristesse, c'était vachement bien aussi.
Vachement bien.
Oui.
Bah, mais soit Belle et tais-toi, on peut faire l'impasse. Hein, quand
si
même,
vous
hein,
voulez.
Bon. En plus, pour une féministe, ça la fout mal. Hein.
On y reviendra tout à l'heure, alors. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, vous êtes la femme de Claude Brasseur dans Camping aussi, par exemple.
Ah, voilà.
Mylène de Bongeau.
Un film dont vous êtes fière.
Aujourd'hui, vous publiez un livre qui s'intitule...
En fait, vous ne vouliez pas être actrice, hein, on peut le dire.
Elle assume un film dans les... toute la
filmographie. C'est un film de vacances.
Je voulais jouer Lady Macbeth.
Ah, mais c'est alors, pas trop tard.
Ou La Maison de Bernarda. Alors, je suis parfois un petit peu frustrée. Voilà.
De toute façon, c'est frustrant. On n'a pas assez de toute l'heure pour donner toute votre filmographie. Et vous publiez Très chers escrocs aux éditions de l'Archipel. Juliette Arnaud, je vous laisse avec Mylène de Bongeau.
Alors, donc, ce livre, il s'appelle Nos chers escrocs. Et vous parlez de ce que vous connaissez très, très bien. Vous vous êtes fait escroquer. Est-ce que c'est ce que vous nous racontez? Alors, le point de départ, tout commence lorsque vous faites confiance à un banquier.
À mon conseiller en patrimoine, un garçon que j'avais depuis 10 ans et que j'avais suivi de banque en banque. J'ai fait au moins 3 banques avec lui. Il était très gentil, il était beau, il était charmant, il était bien habillé. Il m'a jamais donné de mauvais conseils jusqu'au jour où il a fait des conneries et il s'est rabattu sur moi.
Oui, et puis alors, pas n'importe quelle connerie, puisque il faisait des magouilles façon Madoff, c'est-à-dire il pratiquait ce qu'on appelle l'escroquerie.
Ça s'appelle la chaîne de Ponzi.
Voilà, c'est
pas
ça.
Quoi.
Donc en gros, ça consiste à rémunérer les investissements des clients par des nouveaux clients. Donc c'est un système qui marche très très bien jusqu'à ce qu'évidemment il ne marche plus du tout.
Parce qu'un client très important n'arrive pas à rembourser ce qui lui a été prêté. Et donc ce malheureux cher escroc s'est retrouvé avec, il avait plongé dans la caisse d'un Américain qui n'était jamais là et où il y avait des émoluments intéressants. Donc il pillait là-dedans et il s'est retrouvé dans la merde en disant « Ouh là, le mec arrive, il faut absolument que je le rembourse ». Et donc il s'est retourné vers moi, bonne poire, en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais à avoir une assurance vie ? L'assurance vie, ça rapporte rien, c'est complètement démodé, c'est complètement con ». Et alors, sachant que je suis écolo, j'ai un placement pour toi qui est formidable, c'est au Brésil, pour de l'eau, pour aider les paysans, etc. Mais j'ai foncé là-dedans, j'ai dit bon, ok, allez, on y va. Et là, mon pognon, il est parti.
Voilà, et vous vous êtes beaucoup entendu dire autour de vous, par des amis, oui, mais c'est comme ça, Mylène, nul n'est censé ignorer la loi.
Oh, ça, c'est insupportable. Alors ça, mais moi, j'ai encore déjeuné avec mon avocate, parce qu'on est en plein procès, hein, le procès du mec commence, et le 26, je vais savoir s'il est condamné ou pas condamné, parce que entre-temps, ça fait 7 ans de galère que je navigue là-dedans et que j'en vois de dur. Le mec, il est tranquille à la campagne. Il vit avec son mec. Il fait des affaires immobilières. Il s'occupe des petits vieux. Il fait des, je sais pas quoi, du viager.
On va lui péter les jambes, si vous voulez. Hein.
J'ai dit ça à l'avocate. J'ai dit, mais on peut pas aller lui casser la gueule.
Bah oui.
Et elle m'a dit, mais non, alors tu sais, en plus, si tu dis ça comme ça devant tout le monde, c'est sûr que tu vas avoir des gros ennuis. Bon.
Et donc, en fait, ce livre, c'est un peu un genre de justice pour les nuls.
Ce livre, il est fait pour, si j'avais, moi, parce que dans ce livre, je donne plein d'adresses, en disant aux gens, si ce qui m'est arrivé vous arrive, voilà. Il y a une
des
rubrique où il y avait...
Des criminels de Guercerbe, des assos de quickboxing...
n'importe quoi, mais des trucs où vous pouvez aller, parce que si moi, j'avais eu vers quoi me tourner quand ça m'est arrivé, j'aurais pas perdu déjà un an. Parce que là, j'ai appelé un copain, qui a appelé un copain, qui a appelé un copain, qui avait un service à rendre à un copain, et ce qui fait, je me suis retrouvée avec un avocat qui n'était pas du tout ce qu'il me fallait.
Oui, vous avez quand même épuisé 5 ou 6 avocats dans cette affaire.
Ouais.
Oui, ça fait beaucoup.
Ça fait 7 ans de galère. Bien sympa.
Mais ça fait un très beau livre. Et c'est ça, il faut positiver dans la vie, Mylène.
Je fais que ça.
Mylène de Mongeau, vous expliquez donc cette mésaventure et vous donnez des clés aussi pour identifier et tenter de s'en sortir dans Très chers escrocs, publié aux éditions de l'Archipel. Yeux. Port
c'est encore et encore ce corps-là. Ce même corps que tu serres contre toi, c'est encore et encore et encore ce corps-là.
Ah, le feu aux joues de Jeanne Chéral. Programmation musicale, Djoubaka, bien sûr. On va aborder ce premier sujet avec vous. La rentrée des chasseurs est marquée par un permis à prix tout doux. Le prix du permis a été divisé par deux, donc les demandes ont été multipliées par trois. Et pour repeupler les colonies de chasseurs, la fédération tente de séduire les jeunes. Quand ils prennent le fusil de chasse à 16 ou 17 ans, c'est par tradition familiale le plus souvent. Si parmi nos auditeurs il y a des chasseurs, voici un geste de sympathie de notre part pour vous prouver quand même notre bonne foi sur ce sujet.
Les chasseurs sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme et surtout, ils ont une arme. Il faut pas en dire du mal, ils vous feraient un deuxième trou de balle. Hey, toi, quel est ton nom ? Moi, je m'appelle le bourrin. L'autre jour, j'ai tué mon gamin. Ça m'a fait moins de chagrin que lorsque j'ai buté mon chien. Un truc à quatre pattes et bam, je pensais tirer sur ma femme.
Frédéric promet, bien sûr, qu'on retrouvera. Alors, je me disais, Mylène de Mongeau, on vous connaît grande dans la défense des animaux, dans l'amour de la campagne, où vous avez vécu d'ailleurs, je pense, dans la...
Je vis toujours, de plus en plus.
Dans la Mayenne, c'est
dans
ça
la Mayenne.
Dans la Mayenne.
Avec des biches et des chevreuils qui viennent manger mes prunes. Et ma grande angoisse de voir les chasseurs et la chasse. Mais vous savez, je suis, franchement, simplement, je suis consternée. Parce qu'on sait parfaitement que les chasseurs, c'est un lobby. Et que ce lobby, on le caresse dans le sens du poil, parce que ce sont des votants. Alors moi, je milite énormément pour notre parti, qui est le parti animaliste. Parce que je pense que si on arrive à aller plus haut que les chasseurs, qui sont à peu près 1,2 million, ils étaient 1,2 million. Ouais. Si on arrive, nous, parti animaliste, à faire 2 ou 3 millions de votants, on arrivera peut-être à quelque chose, parce qu'on sera plus intéressant que les chasseurs. Les chasseurs, c'est dramatique. Et moi, j'ai un charmant médecin qui me fait des infiltrations dans le genou parce que j'ai mal au genou. Et c'est un grand chasseur. Donc, chaque fois que je vais faire mon infiltration, tous les 6 mois à peu près, on s'engueule comme du poisson pourri.
Non, mais
je dis, j'adore.
6 000 euros l'infiltration.
Ça marcherait. Non, mais non. Il me dit, mais moi, je vais en Afrique et je passe un moment merveilleux. J'ai dit, bon, d'accord, je comprends tout ça, l'Afrique, le moment merveilleux. Mais pourquoi tu es? Et là, il n'a pas de réponse. Il ne sait pas me dire pourquoi tu es. Il dit, mais on est dans une société gavée. Je comprends très bien qu'on tue quand on crève de faim. Et ben, je pense que si on était dans un accident d'avion et qu'on était dans la neige et qu'il fallait bouffer, je boufferais de l'humain. En simplement en me déconnectant la tête. Ben oui, c'est déjà arrivé. On se déconnecte, on se dit pas je mange de l'humain, on se dit je mange une côte de bœuf.
Mais quand c'est pas nécessaire.
Mais quand c'est pas nécessaire, pourquoi j'arrive pas à comprendre
cette
joie.
Peut-être que c'est nécessaire de tuer. Excusez-moi, je propose des de lecture de l'actualité.
Mylène de Mongeau, sur ce sujet, on voulait aussi vous poser une question parce que au début de votre carrière, pendant pas mal de temps, les journalistes vous ont souvent opposé à Brigitte Bardot. Vous étiez les deux sex-symboles blondes du cinéma, etc. Bon, tout le monde connaît l'histoire. Aujourd'hui, elle défend aussi beaucoup les animaux. Vous êtes resté en contact avec elle? C'est un combat
complètement
commun.
Complètement. Mais oui, on se bat ensemble. J'adore cette femme. Je n'aime pas les positions extrêmes qu'elle prend parfois, mais qui sont des positions naïves.
Elle, c'est les chasseurs et les arabes.
Elle aime tellement.
Non.
Laissez parler Mylène de Mongeau.
Mais non, c'est même pas ça. C'est qu'elle adore les moutons et qu'elle supporte pas ces gens qui tranchent la gorge des moutons. C'est aussi bête que ça. Et après, c'est devenu, les arabes, machin, tout ça. C'est complètement idiot. Oui,
vous avez dit hors position de toute façon que vous épousiez ces combats pour les animaux, donc on a bien compris. Mylène de Mongeau, avec nous. Vous êtes une femme de conviction. Et lui aussi, c'est Pablo Mira.
C'est vrai, je suis une femme de conviction, Charlie. Oui.
Et donc mon petit ange trapu, mon Apollon de la Costa Brava,
ouais.
Aujourd'hui je crois que vous vous insurgez contre la disparition de tous les petits plaisirs du quotidien.
Les exploits d'un éditorialiste solitaire dans un monde de gauchistes. Le chevalier et sa droiture. Un réac des temps modernes, dernier recours des innocents et des lecteurs de mariage, victime d'un monde féministe et progressiste.
Ouais. Ouais, ma louloute, c'est bien moi, et aujourd'hui, je suis colère. Colère et ballonnement. Mais ça, c'est parce que j'ai pris de la macédoine à la cantoche ce midi. C'est une autre histoire. Je suis colère parce que Michel Sardou a raison. Il y en a marre de cette société où on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien dire. Si j'ai le malheur de critiquer un homo, on dira que je suis homophobe. Un gros, on dira que je suis grossophobe. Un moche, on dira que je suis masochiste. Donc ça suffit. Ça suffit. On vit sous le regard du Big Brother, de la bien-pensance, dans le stress permanent du faux pas. Maintenant, de peur de la blesser, il faut même plus accoster une femme dans la rue. D'ailleurs, faut plus dire que c'est une femme. Hein. Peut-être se sent-elle homme en ce moment, ou furet, ou tricycle. Qui peut le savoir, hein. Moi, par exemple, je me sors Gorgonzola cette semaine. Non, c'est ridicule, ah, presque.
C'est ça l'odeur.
Ça sent mauvais, dit Mylène.
Ça commence à tailler sur l'odeur déjà.
Ouais, c'est Mylène qui clash.
Allez, c'est ridicule, presque autant que cette chasse permanente aux petits plaisirs de la vie qu'on a initié avec les fumeurs et qu'on est en train d'étendre aux vapoteurs. Écoutez bien.
Oui,
tenez,
j'ai entendu
écoutez
ça.
Bien.
Oui.
Bref. Vigilance. Hier, Gare Saint-Lazare, un homme à Paris a pris 35 euros d'amende pour avoir 35 euros d'amende pour avoir vapoté sur le quai. Charline, c'est une honte. À ce rythme, les Français n'auront même plus les moyens de se payer un cancer, ouais. Ni même une cirrhose. Suffit de voir la campagne de dénigrement contre l'alcool, et à tort, hein, parce que je suis désolé, mais boire de l'alcool, ça nuit pas forcément à la santé, ou ça dégénère pas forcément en émission de foot avec Daniel Riolo sur RMC. Tiens, puisqu'on parle de foot, là aussi, grosse poilade. Maintenant, à la grande mode, écoutez, c'est de suspendre les matchs quand on entend des chants homophobe. Écoutez, à l'heure où l'on parle, le pauvre Dimitri Payet, il attend toujours de tirer son corner face à Reims. Un mois qu'il est là-bas, le gamin. Un mois. Et puis en plus, c'est pas toujours de l'homophobie. Non, non, taisez-vous, Charline.
Bah, j'ai rien dit, là.
Ah si, vous avez dit j'ai rien dit, là, à l'instant. Je disais, c'est pas toujours homophobe, ces chants dans les stades. Chanter les Marseillais, c'est des PD. Là, oui, là, c'est homophobe. Mais chanter les Bastiais, c'est des PD. Là, c'est juste suicidaire. Non, franchement, cette époque est devenue invivable, je vous le dis. Rien que le fait de conduire, hein, on trouve le moyen de nous enquiquiner là-dessus. Hein, alors qu'avant, la voiture, c'était quoi? C'était synonyme de liberté. On pouvait conduire vite, hein, faire du 120, 150, même du 200 victimes à l'heure sur l'autoroute. Non, c'est incroyable, je vous dis, cette cabale contre tout ce qui est agréable. Les seuls un peu épargnés, on en a parlé là, qui arrivent à résister, ce sont les chasseurs. Bon, ils résistent pas à leur cubile rouge de 8h du matin, mais pour le reste, ils résistent. Mais franchement, je vous pose la question. Tiens, à vous, Mylène, écoutez bien, je sais que vous défendez les animaux. Il est où le mal dans la chasse, hein? Vous voyez, vous n'avez pas de réponse. C'est toujours ça avec les écolos quand on leur laisse pas le temps de répondre.
Pour conclure, je cherchais le mal.
Coupez le micro de la dame, s'il vous plaît. Allez, pour conclure, il est évident que si on obéissait aux ayatollahs du vivre ensemble, on prendrait aussi peu de plaisir que Pierre Ménès devant un discours de Malcolm X. Car c'est bien ça qu'on a perdu au fil des années, le plaisir de vivre. Et moi, je vous le dis parfois, je m'imagine un peu à retourner à l'époque où on faisait ce qu'on voulait sans se soucier des autres, où l'on pouvait se moquer des étrangers sans être taxé de raciste, où les féminazis et leurs aisselles touffues n'osaient pas la ramener. Mais bon, tout ça, c'est de l'ordre du rêve, car j'aime trop la France pour aller vivre en Italie. Allez, salut.
Pablo Mira, merci Pablo. Vous écoutez France Inter par Jupiter. L'actrice Mylène de Mongeau est en notre compagnie. Elle aime dénoncer les escrocs dans son dernier livre. Alors, on va voir si vous vous énervez aussi sur l'autre sujet choisi par Juliette.
Alors, le projet de loi bioéthique du gouvernement va proposer que la PMA soit ouverte non plus seulement à tout couple formé d'un homme et d'une femme, mais aussi au couple formé de deux femmes et à toute femme non mariée. Alors toute la droite, du parti LR jusqu'aux évêques, en passant par Marion Maréchal Le Pen, est vent debout, arguant que la GPA n'est pas loin. C'est comme si rien n'avait changé, qu'il y avait toujours qu'une seule façon de faire des bébés. Et puis la Sainte Vierge. Et puis Marie-Thérèse.
Madame, je vous jure que les hommes m'écouchent avec un garçon. Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie. Marie-Thérèse, rappelez-vous, Vous êtes bien sortie une fois avec un garçon.
Mais non, madame, je vous jure que j'ai jamais été sortie avec un garçon. Je ne sors jamais avec les garçons.
Marie-Thérèse, ne jurez pas. Marie-Thérèse, vous êtes bien allée au bal un soir.
Mais non, madame, je vous jure, je ne vais jamais au bal.
Arrêtez de jurer, Marie-Thérèse. Ils vous ont peut-être fait boire.
Je vous le ramener.
Mais enfin, Marie-Thérèse, c'est impossible.
Alors, toute la droite,
c'est Catherine Jacob.
C'était Catherine Jacob dans La vie est un fleuve
tranquille. Hélène Vincent, voilà.
Dans La vie est un fleuve tranquille.
D'Étienne Chatiez.
Alors, je disais toute la droite, je suis pas tout à fait juive, c'est pas vrai. Il y a une députée LR, Nadia Ramasamy, députée de La Réunion, qui estime que le refus de retranscrire les actes de naissance porte atteinte à l'identité et aux droits fondamentaux de ses enfants. Hein, parce que même si on pense que la GPA, c'est mal, c'est l'œuvre de Satan, super, mais les enfants français issus de la GPA, qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'ils sont là, eux, ils sont là pour de vrai. Alors on a choisi ce sujet en pensant à vous, Mylène, parce que dans différentes interviews, vous dites que vous êtes sensible au fait qu'il y ait des Français qui partent par exemple en Suisse pour pouvoir bénéficier de l'euthanasie, du suicide assisté.
Ça, c'est la DMD, oui. Donc,
voilà.
De mourir dans la dignité du monde.
Oui. Hein, de la même manière.
Je veux avoir le droit de m'en aller parce que j'ai pas eu, on m'a pas demandé mon avis quand je suis venue. Donc là, maintenant, j'existe et je veux avoir le droit de m'en aller si j'en ai envie.
Mais restez, restez encore un peu, peut-être, mais
l'émission, c'est jusqu'à 18h quand même.
C'est ce que je veux.
Et alors, justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces enfants?
Eh ben, je suis très perplexe parce que d'une part, je comprends très bien que des gens aient envie d'enfants, mais d'autre part, quand on regarde un petit peu le monde où il va, quand on regarde la sixième extinction, quand on regarde que la démographie sur Terre est un fléau absolument terrifiant, on s'est dit, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête tous d'avoir encore envie d'en rajouter un et d'en rajouter un et d'en rajouter un de... Et puis, je sais pas, le monde s'en va, on sait pas ce qui va se passer dans les 20-30 ans qui viennent. Les mômes, qu'est-ce qu'on en fait des chômeurs? Qu'est-ce qu'on en fait?
Vous êtes plus contre le fait de faire des enfants tout court, peu importe le moyen.
Je pense qu'il faudrait faire un passeport qui permettrait aux gens...
Un permis
à faire des enfants en toute connaissance de cause.
Quels seraient les
avec
critères,
une bonne réflexion. Ben, de réfléchir à ce que... Regardez, sans arrêt, on voit des gens qui mettent des enfants sur Terre et qui s'en occupent pas. Cette nuit, je regardais une émission sur Michel Houellebecq que j'adore.
Ah, oui,
et donc je connais
Michel
rien
Houellebecq,
de son enfance.
Ouais.
Et j'ai appris tout d'un coup que il était né d'une femme qui n'avait pas du tout envie d'avoir un enfant, qu'il a foutu à la grand-mère. Et comme elle était communiste, elle a dit, je veux pas qu'il ait une nounou, parce qu'une nounou, ça va lui donner des goûts de luxe, et ça va lui donner le plaisir d'avoir des domestiques. Et ce môme, il a grandi tout seul, toute sa vie.
Alors mais ça a donné quand un écrivain.
Lit, oui, mais quand on
que
lit Cyrulnik, qui dit que ce qui est important pour un tout petit, c'est l'affectivité dès le départ, c'est le porter contre son ventre. Les Africains sont beaucoup plus intelligents que nous. L'enfant, on le voit bien, alors il est ou devant ou derrière, mais il est tout le temps là. Les gens, ils le prennent et puis ils le foutent de côté. Et je suis terrifiée par ces gens qui mettent les mômes à 3 ans dans les maternelles. À 3 ans?
Ah, oui.
Ça me fait peur.
Okay. Ça va bien se passer, Mylène.
Mylène de Mongeau, on s'est permis d'écrire un petit sketch. Je sais pas si vous, est-ce que vous êtes d'accord de jouer avec nous? Je sais pas s'il faut chausser vos lunettes, vos demi-lunes,
oui,
comme dirait Guillaume Meurice.
Alors, l'histoire est la suivante. Figurez-vous que l'Arabie Saoudite paye des influenceurs sur les réseaux sociaux pour pimper son image. Alors, on s'est imaginé comment se passait l'accueil d'une de ces influenceuses. Et c'est vous, Mylène, qui allez l'interpréter. Guillaume est le prince Mohamed Ben Salman.
Okay. Tout à fait.
Oui, et Charline, son accompagnatrice.
Mon prince, je vous présente Mylène, elle est chargée de donner au monde une belle image de notre beau pays.
Bonjour Mylène, vous n'êtes pas journaliste, j'espère.
Bah non, pourquoi?
Pour savoir si vous allez rester entière ou finir en rondelle.
Mais j'ai pas compris la blague.
Oui, alors laissez tomber. Alors Mylène est influenceuse.
Ouais, je suis instagrammeuse. Je partage mes Insta moments avec mes Insta fans.
Ah, j'ai pas compris la blague.
Non, elle dit qu'elle va partager les photos qu'on lui demandera de partager.
Ah d'accord, bienvenue Mylène, voici vos appartements.
Oh, mais la 500 suite est chante-mère, c'est immense, mais pourquoi il y a 12 lits?
Je suis très soucieux de votre confort, je veille à ce qu'il y ait un lit par femme.
Ah bon? J'ai des collègues? On forme une vraie rédaction en fait? Oh ben c'est trop bien, je vais l'instatuer direct.
Non.
Oh, en tout cas, j'adore les deux beaux rideaux à côté des fenêtres.
Ah oui, alors non, ça c'est Leïla et Rachida, c'est vos deux servantes pendant votre séjour.
Trop bien, j'ai lancé le hashtag femme rideau.
Non. Alors pour les premières photos, on va poster des paysages hein, d'abord.
Ok, bon, d'accord. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a comme activité ici?
Oh ben, vous pourrez faire des photos au zoo.
Ah, génial! Mes Instafans adorent les animaux. Vous savez quoi? Des singes? Des dromadaires?
Non, des opposants politiques.
Oui, plaisante, hein. On va envisager une autre activité.
Et pourquoi pas une Instabalade en chameau dans le désert?
Ah, ben les femmes n'ont pas le droit de monter sur les chameaux, hein.
Elles ont le droit de conduire des voitures? Et elles n'ont pas le droit de monter des chameaux?
Oui, parce que les chameaux n'ont de contrat d'assurance pour les accidents.
Attendez, qu'est-ce que vous faites là?
Ben, je me mets un maillot de bain. Pour ma première Insta Story, je voulais poster une photo à la piscine.
Ah, mais non, il est 16h. Et à 16h, la piscine est fermée pour les femmes.
Ah bon, pourquoi?
Parce qu'il fait trop chaud pour porter un burkini.
En revanche, on peut vous prendre en photo devant le portrait du prince, si vous voulez.
Oh ben non, on fait un selfie.
Bon, donnez, je vais la faire, j'ai le bras long.
Allez, souriez. 1, 2, 3...
Mais vous n'avez pris que la moitié de mon visage.
Ah pardon, une vieille habitude de couper les têtes.
Juliette, je vous propose de prendre l'air, ainsi que tous les auditeurs, grâce à...
Guillaume Meurice,
eh oui.
Parce qu'on va aller avec lui dans la rue, avec un sujet qui vraiment pourra ambiancer vos soirées de Nouvel An, si jamais à un moment il y a un blanc dans la conversation. Justement, un sujet, le racisme anti-blanc.
Oui, alors attention, parce que moi je vais vous parler d'un sujet terrible aujourd'hui, le racisme qu'on subit tous au quotidien, même nous hein, autour de la table. Alors évidemment tous sauf Rukyata, qui a la chance d'être
mais
né
oui,
avec
sûr.
La bonne couleur de peau, ça va, tranquille, on est bien, hein, on a les honneurs de Michel Leeb, on est à l'aise, ok. Non, je vais vous parler évidemment de racisme anti-blanc qui nous frappe. Hein. Je rappelle que Yannick Agnel, notre invité, voulait à la base participer aux Jeux Olympiques de Zouklov, mais il a dû se rabattre sur un sport de blanc, hein, la natation, c'est terrible. Alors quand on dit racisme anti-blanc, c'est un terme générique, parce qu'évidemment on n'a pas tous la peau blanche, enfin Hippolyte en fin de sieste en plein soleil, il est parfois victime de racisme anti-rougeau par exemple on pourrait dire, Alain Finkielkraut est victime de racisme anti-gris, Yann Moix de racisme vert de gris, hein, voilà, enfin voilà, on classera ça, je veux dire, dans une généralité, racisme anti-blanc. Alors c'est le grand débat du moment, il y a un problème, c'est vrai, il faut le dire, en France, il y a des ghettos de blancs, je pense notamment à l'Assemblée Nationale par exemple, véritable ghetto de blancs, les blancs se retranchent comme ça, donc il y a un gros souci dans ce pays. Je suis allé le constater encore ce matin en me promenant dans les rues de Paris. On commence avec une dame qui connaît le racisme anti-blanc de près.
Oui, parce que moi j'ai un vendeur qui est africain, d'origine africaine, et souvent il me dit qu'il est en France, mais qu'il en veut beaucoup à la colonisation, donc j'expliquais que c'est derrière nous.
Ça pour vous c'est du racisme anti-blanc?
Un petit peu, oui, parce qu'il dit que c'est les Blancs qui ont semé le problème en Afrique.
Ouais.
Non, mais il a un peu raison.
Ah, alors attendez, voilà, ça c'est très classique. On prend toujours le parti de son bourreau. Alors, voilà, c'est le fameux syndrome de Stockholm. Bon, là, c'est le syndrome de Bamako, en l'occurrence, mais c'est presque pareil. Donc, selon les quartiers, je dirais, restons vigilants.
Oui, il y a des quartiers, quand vous allez dans le 18e, une fois, je suis allée, parce que je suis très cliente des puces de Clignancourt, je faisais la queue à des marchands de légumes. On ne me servait pas. C'est au bout d'un moment un monsieur qui lui a dit ben, « serre la dame quand même ».
On ne vous servait pas parce que vous étiez blanche?
Je pense, oui.
Comment vous pouvez être sûr de ça?
Bon, parce que c'était que des Nord-Africains.
Classique, classique. Le coup classique des Maghrébins qui ne servent pas les Blancs, on l'a tous connu ça, hein, vraiment. Hein, c'est pour ça que nous, bah, pour se venger, bah, on est obligé de leur refuser des emplois, des logements, des entrées en boîte. Voilà, c'est soit ça, soit vous nous servez quand on va au marché, putain. C'est compliqué à comprendre, ça va bien 5 minutes. Hein, ça, c'est vraiment lié à un phénomène typique des gens de couleur.
Les gens de couleur préfèrent être entre eux et...
Mais les gens de couleur, est-ce que vous comptez les blancs dedans?
On a une gardienne qui est de couleur. Elle est très très gentille. Bon, elle fait pas bien le ménage, mais tant pis, on fait avec. On l'aime bien, puis c'est tout, quoi, voilà. Mais à partir du moment où ils se permettent tout et qu'ils jouent sur le fait qu'ils sont de couleur et qu'ils se prennent pour des victimes, et ça, je supporte pas.
Non, c'est insupportable. Ouais. Insupportable, de même que les gonzesses qui viennent chouiner parce qu'elles sont payées moins. Insupportable, ou les gays qui se font casser la gueule dans la rue parce qu'ils se tiennent la main. Quand on est une victime, on doit se comporter quand même avec de la dignité, je dirais. C'est quand même pas compliqué de sourire. Même si vous avez des dents en moins, vous souriez. On doit être correct, n'est-ce pas?
Si les gens sont corrects et qui nous respectent, nous, ça me dérange pas d'avoir un noir sur mon palier, à condition qu'ils ne viennent pas avec toute sa marmaille, là, et qu'ils se prennent, qu'ils fassent leur cuisine sur le palier. Voilà.
Donc vous êtes quelqu'un de tolérant?
Je suis tolérante, mais mais c'est mieux chacun chez soi.
Voilà, oui, bah, c'est, voilà. Bah, pareil, je tolère très bien chacun chez soi. Je tolère très bien les Chinois à Pékin, par exemple. Je trouve qu'il n'y a aucun problème. Je suis ouvert d'esprit. Même quand je vais en vacances à Djerba, je tolère quelques Arabes. Voilà, c'est parce que je suis comme ça, c'est la France. Alors, vous allez me dire que pendant la colonisation, la France n'était pas vraiment chez elle. Je vous vois venir, les gauchias. Eh ben, je suis allé voir, figurez-vous, un Sénégalais d'origine, pour lui parler de racisme. Et d'abord, des propos de Lilian Thuram.
Thuram, il est mal placé pour parler des Noirs, parce que Thuram n'est pas noir. Hein? Thuram est mulâtre. Il n'est pas noir. Obama même n'est pas noir. Hein? Mulâtre, c'est moitié lait, moitié café.
Donc il ne devrait pas, pour vous
non,
parler...
Non, tous les foncés, moi je les appelle foncés parce qu'ils ne sont pas noirs. Il y a beaucoup de foncés qui ne sont pas noirs. Hein? Les Éthiopiens. Eux, c'est des Noirs, mais ils sont plus clairs que nous.
C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Hein. Voilà, le racisme, c'est un truc assez technique. Alors, vous pouvez être raciste comme ça, un peu à l'arrache, comme ça, pour déconner entre vous. Mais si vous voulez vraiment être un bon raciste, raciste précis, je dirais, il y a un peu de boulot. Alors, accrochez-vous, revenons sur la lutte antiraciste et Lilian Thuram.
C'est une escroquerie. Vous voyez ce que je veux dire. C'est
donc, il y a des nuances. Couleur.
Voilà, et c'est très important.
Donc, si vous êtes noir-noir.
Noir-noir-noir-noir. Les Antillais, comme Thuram, c'est une fabrication française, comme les petits pois.
Ah, oui, alors, bon, là, ça n'a pas de lien vraiment technique. Bon, le petit pois, j'en profite pour faire un petit point historique, inventé en 1712 par Jean-Michel Petitpois, qui a d'ailleurs donné son nom aux légumes. Et Thuram, c'est pareil, les Antillais, c'est pareil. Ça fait du bien de prendre un petit cours d'histoire comme ça. Ça nous fait pas de mal. D'ailleurs, on va conclure avec ce monsieur sur ce qu'il pense des Blancs.
Excusez-moi, il n'y a pas de Blancs sur cette terre. Il n'y en a pas. C'est un mensonge.
Mais alors, moi, je suis quoi, par exemple, pour vous?
Un jour, un blanc m'a énervé. Je lui ai dit, vous avez la peau d'un porc. Et je soupçonne qu'il est juif. Lui.
Oula, alors attendez, on va pas partir là-dedans. Hein. Il va être obligé de demander pardon à BHL dans 5 minutes. Alors, bah, j'aurais bien voulu lui expliquer qu'il y a des cochons qui sont noirs aussi. Bon, ça fout la merde, ça dépend des races. Que le principe de race humaine n'existe pas, mais que la xénophobie est quasiment, en France en tout cas, toujours dirigée vers des gens dits de la minorité. Ah, heureusement, bientôt, avec le réchauffement climatique, on sera tous cramés et nos cendres auront toutes la même couleur.
Oh no.
Cross My Heart, Son Little. Cross My Heart étant le titre. Son Little, le groupe
n'étant pas le titre.
Vous écoutez France Inter, par Jupiter. On va passer le reste de cette émission dans l'atelier de Léonard de Vinci avec l'une des personnes qui le connaît le mieux, l'écrivain Serge Bramley. Serge Bramley, Guillaume Meurice s'intéresse beaucoup à Léonard de Vinci. Guillaume, je vous laisse deux minutes pour poser une question que vous rêvez de poser.
Oui, j'ai une question sur la bataille d'Anghiari, qui est donc une fresque qui a disparu, qui était à l'époque au Palazzo Vecchio à Florence. Et dans votre documentaire, vous mentionnez pas une théorie qui serait qu'elle a été recouverte par Vasari, si je ne m'abuse.
Oh, c'est pas une théorie, c'est une réalité.
Une recherche, en tout cas, oui.
Elle a été recouverte par Vasari parce qu'elle s'abîmait, parce que c'était pas terminé, parce que c'est quand même la salle principale de la République florentine à l'époque, et qu'il fallait bien en faire quelque chose.
Il y a une théorie comme quoi elle n'a pas été détruite, qu'elle n'a pas été recouverte. Alors, et il y a un chercheur, alors le nom je l'ai là, Serracini,
oui, je pense que vous connaissez. Oui, absolument, je connais. On pense que Vasari n'aurait pas osé détruire une fresque de Vasari. Il faut voir que c'est une salle qui est gigantesque, plus de 20 mètres de long, la fresque au départ. Il devait y avoir sur un mur celle de Léonard, sur le mur opposé, une bataille équivalente peinte par Michel-Ange. Et c'était parti pour devenir l'école du monde, parce qu'on avait quand même les deux plus grands génies qui s'attaquaient en très très grand à des sujets importants. Et Michel-Ange n'a jamais commencé, ou à peine, quelques esquisses. Léonard a eu des problèmes techniques et très vite a abandonné. Mais on a une très bonne idée de ce à quoi elle peut ressembler. Alors Vasari n'a sûrement pas osé détruire, il a probablement mis une couche protectrice et peint par-dessus. Mais en attendant, soit on n'a pas les outils assez perfectionnés pour voir ce qu'il y a en dessous, soit en tout cas personne ne veut détruire les œuvres de Vasari.
Potentiellement, la fresque est dessous, quoi. Potentiellement
éventuel.
Ouais.
Mais c'est vrai, elle pourrait être dessous, cette fresque.
Elle pourrait être dessous, mais il y aurait des contours. Hein. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait. On ne sait pas jusqu'où Léonard est allé.
Vous êtes bien sur France Culture.
Guillaume voulait vérifier si vous étiez un vrai spécialiste de Léonard de Vinci. En tout cas, le documentaire.
C'est une bonne question parce qu'on la cherche comme on cherche, comme le capitaine Haddock cherchait le
vrai. Serge Bramley, même l'homme de Vitruve est resté bloqué à la frontière italienne, franco-italienne. Les autorités françaises avaient d'abord annoncé la venue de cette œuvre pour la grande exposition consacrée à Léonard de Vinci. La France et l'Italie avaient passé un accord, mais le tribunal administratif de Vénétie a bloqué le transfert. L'homme de Vitruve, c'est un petit peu le Neymar de l'art pictural, hein, ça ne se prête pas comme ça. Ça a mis les dirigeants italiens en pétard à la limite de l'incident diplomatique. Voilà comment ils parlent de la France maintenant.
Encore un vol de tableau qui a été fait la semaine dernière, toujours au musée de Rome. On pense que c'est le gardien du musée qui serait complice avec les conservateurs du musée, lequel il a accusé le ministre de la Culture. Et si vous voulez visiter le musée, dépêchez-vous, il reste encore deux tableaux.
Ce sont les inconnus, bien sûr. Alors, vous l'avez vu?
L'homme de Vitruve, jamais.
Non, jamais.
Non, je me réjouissais.
Probablement pas mal
de français.
Les nombreux usages commerciaux de l'homme de Vitruve, est-ce qu'ils ont joué dans la notoriété de l'œuvre ou pas du tout? Quelle valeur elle a, cette œuvre, dans toute l'œuvre de Léonard de Vinci? C'est une des plus connues dans la hiérarchie des...
C'est parmi les plus connues. En même temps, ça s'appelle l'homme de Vitruve, donc le mérite devrait en revenir à Vitruve. Avant de revenir à Léonard, c'est lui qui a inventé le principe. C'est un dessin très spectaculaire. Léonard a passé une bonne partie de sa vie à rechercher, non pas E égale MC2, mais l'équivalent pour les proportions. Et ce dessin, c'est un des innombrables travaux qu'il a fait sur les proportions. Il a fait des proportions sur le corps humain, mais enfin des études, mais également pour les animaux, mais également, ce qu'on sait moins, pour les plantes. Avec une idée de fractal, comme quoi les racines et le tronc auraient forcément tel développement par rapport aux feuilles, etc. Et donc, ça fait partie du système et de l'intelligence de Léonard, même si l'idée, après tout, elle est de Vitruve à l'origine. Le dessin est très spectaculaire parce que, peut-être, est-ce que Léonard s'est représenté lui-même? C'est pas impossible. Il n'y a aucune certitude, hein, c'est pas impossible. Mais c'est une idée de l'homme qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que lorsqu'on dit Léonard, l'homme universel, etc., touche à tout, sans parler de tout le reste, il était beau, il était sportif, il était sympathique.
Il est énervant quand même.
Il était drôle. Et drôle.
En plus, il s'est jamais marié.
Cet homme, oui, il a l'air assez triomphant et capable d'une sorte d'équilibre comme ça avec le monde.
Serge Bramley.
Heureusement qu'il était pédophile, sinon il aurait aucun défaut.
Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on ne parle pas trop.
Excusez-moi.
À l'époque, pédophile n'était pas un crime.
Oui, voilà.
En tout cas, la suite est dans le livre. Hein. Si vous voulez connaître un peu de la sexualité de Léonard, c'est dans la biographie par Jean-Claude Lattès.
Vous parlez de tout.
Mais bien sûr.
Hashtag balance ton Léonard.
Ça y est, et là vous venez de coller un fou rire à Juliette, alors que c'est le moment de sa chronique. Ça, c'était vraiment pas mal. Vous voulez qu'on fasse quelque chose en attendant?
Je suis tellement prête. Alors, s'il y a bien une chose qu'on a compris ce week-end, c'est que les faits divers nous rendent zinzin. L'émotion nous empoigne, on essaye de comprendre, on fait le grand 8, le haut, le bas, le chaud, le froid. Et dans le cas de Xavier Dupont de Ligonnès, on se prend à être d'accord avec François Mauriac, c'est pas tous les jours, quand il écrit que la déception est un sentiment qui ne déçoit jamais. Merci François, même d'outre-tombe, vous êtes bien aimable. Mais si vous désirez, hors manège de fête foraine, comprendre ce que c'est qu'un fait divers, tout ce que c'est qu'un fait divers, on éteint les chaînes Tout Info, on ouvre ce livre qui porte un prénom féminin, Laetitia. Qui est Laetitia? C'est une jeune fille qui menait une vie sans histoire avec sa sœur jumelle dans sa famille d'accueil à Pornic où elle était serveuse. En janvier 2011, elle est enlevée et il faudra plusieurs semaines de recherches intenses pour retrouver son corps martyrisé. Elle avait 18 ans. Ce prénom, Laetitia, qui signifie la joie en latin, recoucou François Mauriac, devient une affaire médiatique qui tient la une pendant 6 semaines, avec des rebondissements jusqu'en août, ce qui est rare pour un fait divers. Pour rappel, Dupont de Ligonnès, ça a fait 10 jours à la une seulement. Ce prénom, Laetitia, devient une affaire ensuite d'État, après l'intervention du président de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui entraîne une grève des magistrats. Et ça, c'est pas courant, hein. Pour rappel, la magistrature, c'est pas exactement un cercle de dangereux gauchistes. Ainsi, François Mauriac fut élevé par un oncle magistrat du côté de Bordeaux. Pourquoi Yvon Jablonka, l'auteur de ce livre, Laetitia, se lance-t-il à écrire cette histoire? Il dit... Il y a dans la vie de Laetitia 3 injustices. Son enfance, entre un père violent et un père d'accueil abusif. Sa mort atroce à l'âge de 18 ans et sa métamorphose en fait divers. Les 2 premières injustices me laissent désolé et impuissant. Contre la 3e, tout mon être se révolte. Et le fruit de sa révolte, c'est ce livre. Sauf que voilà, Yvon Jablonka est historien. Alors, qu'est-ce qu'un historien vient faire dans cette histoire? Eh bien, monsieur Bramley, il fait... Yvon Jablonka, son Léonard de Vinci. Léonard de Vinci qui voulait être homme universel, qui voulait tout comprendre, à qui dessiner, peindre, sculpter ne suffisait pas. Eh bien, Yvon Jablonka, il va faire la même chose, il va prendre son temps, il va investiguer après le temps de l'émotion et de l'aveuglement inévitable, et dans le cas de Laetitia, inévité. Et comme il veut témoigner pour Laetitia, et pas de Laetitia et de son assassin, il prend le temps pour apprivoiser la sœur jumelle, la sœur vivante, Jessica, pour apprivoiser son avocate, le procureur de l'époque, Xavier Roncin, qui ne veut pas pérorer et se mettre en avant avec cette affaire, grande affaire sensible, et ça nous change d'autres avocats qu'on ne nommera pas pour des raisons évidentes de sécurité, mais aussi les gendarmes, les journalistes, les travailleurs sociaux, tout le monde, et avec sa capacité de recul d'historien. Et en même temps, Laetitia est un des livres les plus poignants qu'il m'ait été donné de lire. Je pensais lire un portrait de victime. C'est aussi, c'est surtout le récit de la brève vie d'une femme libre qui, jusqu'au dernier moment, a dit non à son meurtrier d'une voix claire et forte et à qui cela a coûté la vie. Léonard de Vinci avait vu la guerre, il en était revenu horrifié de la bestialité des hommes. Yvon Jablonka, pour écrire ce livre, l'a vu aussi. Léonard de Vinci a également peint la Joconde, celle qui sourit malgré le fond crépusculaire derrière elle. Et lorsque vous lirez Laetitia, et vous allez le faire, vous sentirez son sourire timide, énigmatique, mais réel. Laetitia n'est pas un fait divers, c'était une jeune fille de 18 ans. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnault, merci beaucoup. Il est paru en poche, c'est
oui,
ça?
Oui, il est en poche, donc il faut en profiter. Le monsieur s'appelle Yvon Jablonka, elle s'appelait Laetitia et c'est chez Point.
Merci beaucoup Juliette Arnault. Vous écoutez France Inter avec Serge Bramley. Et cette question, qui n'a jamais rêvé que dans son salon, ça sente la même odeur qu'au théâtre du Châtelet? Qui? Et ça, le théâtre s'en est rendu compte, ça, qui répond à la demande, à une forte demande. Et vient de créer une fragrance baptisée « Odeur du théâtre du Châtelet, acte 1 ».
qui fait qu'on en aura sans doute 2 et 3. Hein, bon. Le flacon de 200 ml est disponible à la billetterie au prix de 120 €. Le théâtre privé se lance donc dans le parfum. Il est déjà arrivé, attention, que le parfum se lance dans le théâtre, rappelez-vous. C'est une vraie pub, hein, si oui, vous le dire. Du parfum égoïste, donc citant le site de Corneille. Voilà. Alors dans le Parisien, il y a donc un article qui nous explique que le théâtre du Châtelet, pour pouvoir avoir des sous pour créer les spectacles, vend du parfum qui sent l'odeur de la salle.
Ça sent pas très très bon dans les salles de théâtre. Ben,
alors, c'est Châtelet, si, c'est vrai.
Non, on parle pas de la Comédie française, on parle de Châtelet,
ça sent le neuf.
Alors, Serge Bramly, ce qui nous a beaucoup amusé, c'est qu'on a lu, donc vous êtes aussi romancier, qu'il y a une époque où vous avez écrit l'un ou l'autre texte relatif à des parfums de grandes marques. Oui. Alors, je me disais, est-ce que quand on écrit pour décrire du parfum, c'est du flanc publicitaire ou c'est un vrai exercice de style?
C'est un exercice de style très abusant, très difficile, très comprenant, très dur. Lorsque, surtout quand on le fait pour la 20e fois, avec le même parfum qui se décline dans nos toilettes, ou dans une fille, essence de... Enfin bon, bref. Ouais. Oui, c'est un bon exercice.
On fait comment?
Moi,
alors
j'adorais ça.
Dans ces cas de figure-ci, si on vous disait, voilà, pour le Châtelet, Serge, mais il faut un texte.
Le mettre des mots, c'est pas compliqué, puisqu'on... Le problème, c'est je vois pas à quoi ça peut ressembler, l'odeur du théâtre du Châtelet. En général, les parfums, on les sent, on les renifle, on a une sorte d'argumentaire, on sait ce qu'il y a dedans.
Là, faut déjà être sûr d'avoir un nez avant de pouvoir écrire.
Il y a une note de tête, il y a un sillage, il y a un cœur.
Vous connaissez tous les
spectateurs.
Je vous laisse avec Alex Vizorek et le feu roulant de ces questions, mais nous sommes une équipe, avec vous.
On termine souvent l'émission par le Jupi-Proust, donc un questionnaire de Proust, mais à la sauce Jupiter. Mais ici, j'ai envie que ce ne soit pas Serge Bramly qui réponde, mais Léonard de Vinci. Alors, vous êtes Léonard de Vinci, d'accord, puisque vous le connaissez bien.
Je suis en porte-parole.
Et vous répondez à sa place. Léonard, sur une échelle de 1 à 10, comment trouvez-vous les tableaux de Michel-Ange?
Ah non, on peut dire 10 facilement, sans
10.
Problème.
Léonard, sur une échelle de 1 à 10, comment trouvez-vous les tableaux de Jackson Pollock?
Je ne sais pas s'il aurait compris. Moi, je les mettrais aussi dans les 10.
Non, c'est pas vous, hein?
C'est ça le problème.
Mais attention. Quel homme politique français actuel préférez-vous, Léonard de Vinci?
La question est difficile.
Là, c'est
alors,
pas évident. Là. Ouais.
Alors, c'est Léonard qui répond.
Bien sûr.
Ouais. Sûrement le président, parce qu'un peintre, ça a besoin de protecteurs.
Il est un peu faillot.
Que
oui.
Vous répondriez à ça. Quel homme politique français actuel détestez-vous, Léonard de Vinci?
Ça, ils sont tellement nombreux.
Ceux qui ne donnent pas une thune.
Ceux qui ne donnent pas une thune. Non, ça ne s'arrête pas là. Il y a plus de motifs de...
Léonard de Vinci, est-ce qu'à la Renaissance, il y avait déjà des gens qui disaient « c'était quand même mieux au Moyen-Âge »
Oui. Pas en peinture.
Ah.
En peinture, on était persuadé à la Renaissance qu'on était dans un progrès. Il n'y avait pas de différence pour eux entre l'art et la science. La science progresse, l'art progresse. Mais question douceur de vie, oui.
Léonard de Vinci, combien de temps passez-vous sur votre smartphone?
Quelqu'un m'a envoyé il n'y a pas longtemps un petit dessin très rigolo prouvant que Léonard avait inventé le smartphone.
Non, mais il aurait aimé ça.
C'est assez bien fait.
On est d'accord qu'il aurait aimé ça.
Sûrement.
Il aurait dit ceci est une révolution.
Que pensez-vous de Léonard d'O DiCaprio, Léonard de Vinci?
Ah, je sais qu'il a acheté les droits de plusieurs livres pour faire aller. Il paraît qu'on l'a appelé Leonardo à cause de Vinci.
Et la dernière, Léonard de Vinci, êtes-vous satisfait de Serge Bramly comme biographe?
Enchanté, non?
Et voici notre barde, celui qui finit tous les banquets attaché à un arbre, c'est Frédéric Fromet.
On n'a pas de moule avec le PR de Flamand. Flamandville, ville ne fonctionne pas, maman. Flamandville, ville, c'est comme la prostate de Guy Marchand. On n'a pas de moule avec la Normandie, je vous jure. On est mal habile, bile, bile. On n'est pas doué pour les soudures. Mais tranquille, kill, kill, kill. On a de l'iode, ça rassure. Ça nous saoule, 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 saoule. On nous emmerde pour un couvercle. Un peu fragile, gile, gile, gile. Et alors ce n'est qu'un couvercle de matière fissile, sile, sile. Bon, d'accord, on va le refaire. Si le projet coule, 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 c'est quand même pas Fukushima. C'est pas Tchernobyl, bile, bile, juste des fissures, ça et là. C'est pas difficile, sile, sile, un bout de scotch et ça ira. À mon beau tuyau de Flamanville, Flamanville. À mon beau tuyau, un peu de colle, y'a plus de défaut. 12 milliards de boule, 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 un budget pas délirant. Une broutille, tille, 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 deux fois le PIB du Soudan. On a plein de tuiles, 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 mais ici on peut faire la manche. Quand le temps s'écoule, coule, coule, juste un retard de 10 ans. Comme ça file, 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 le PR est-il un gisement? Pas de chlorophylle, file, file, mais de gens incompétents. À quoi devenir ma boule, boule, boule? La démo est éclatante, les galères s'empilent, pile, pile, mais je doute que vous tente une centrale mobile, bile, bile, comme la centrale russe flottante. À la pêche au moule, 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 moi je veux pas y aller, maman. EDF m'en file, 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 c'est du nucléaire, c'est pas étonnant. Méfions-nous des villes, 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 dont on vante le rayonnement.
C'est la fin de cette émission, Juliette.
C'est triste.
Mais ça en annonce une autre.
C'est bien.
Mais bien sûr, car demain, nous recevons Clément Viktorovitch, qui est professeur de rhétorique à Sciences Po. Et nous recevrons aussi Carla Bianchi, qui est une humoriste italienne, qui a un spectacle sur les migrants. Mais un spectacle rigolo. Et qui s'appelle Migrando. Et on vous invite vraiment à les découvrir si vous ne les connaissez pas encore. Alors, rendez-vous demain.
Au revoir.